Voilà, on va continuer la catéchèse sur l'Église en partant toujours de la constitution dogmatique du Concile Vatican II sur l'Église qui s'appelle Lumen Gentium. Alors, on a vu dans les deux premières catéchèses, toujours en partant de cette constitution, que l'Église était, qu'on parlait de l'Église comme un mystère, le mystère de l'Église. Hein, c'est-à-dire que l'Église était quelque chose qui avait été voulu par Dieu. Ça part même de la Trinité, hein, c'est même présenté comme partant de la Trinité, et c'est un mystère dans le sens où on ne peut pas complètement cerner tout ce qui est dans le plan de Dieu, dans cette œuvre qu'est l'Église. Et puis aussi, un autre aspect qui a été souligné, c'est que l'Église est à la fois humaine et divine. C'est-à-dire elle est humaine dans le sens où nous sommes membres de cette Église, c'est très concret, et elle est divine dans le sens où c'est Dieu qui l'a voulu, et c'est le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui guide son Église. Et nous, nous sommes invités à ne pas séparer les deux, mais à croire à l'ensemble, en disant, ben, même si c'est conduit par exemple par des hommes, même si le peuple chrétien n'est pas parfait, il n'empêche que Dieu agit à travers cette Église et dans cette Église. Ensuite, dans la troisième catéchèse, donc ça correspond au deuxième chapitre de la Constitution, on a vu que l'Église était le peuple de Dieu. Alors ça, c'était une nouveauté un petit peu du Concile Vatican II, qui a mis en avant cette idée que l'Église est d'abord un peuple. À la suite du peuple d'Israël, l'Église est d'abord un peuple que Dieu veut rassembler pour le sauver et pour lui donner tous ses dons, tout son amour. Hein, donc c'est d'abord un peuple. Nous sommes tous membres de ce peuple par la grâce de notre baptême. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes tous en chemin, tous sur le même chemin. Voilà, donc c'est un aspect important qui a voulu être montré, que l'Église est un peuple. C'est une communauté, que l'Église est une communion de l'ensemble des chrétiens. Et enfin, donc là aujourd'hui, on arrive dans le troisième chapitre, donc c'est la constitution hiérarchique de l'Église et de l'Épiscopat. Alors, autrefois, parfois on disait que l'Église c'était une organisation où il y avait les prêtres et les évêques, et puis les fidèles devaient suivre les prêtres et les évêques. Aujourd'hui, on dit bien que c'est un peuple, c'est vraiment le peuple de Dieu, mais ce peuple est organisé par la volonté même de Jésus. Et quelle est cette volonté? C'est que Jésus, quand il a commencé à créer l'Église, eh bien, il a aussi choisi 12 apôtres. C'est-à-dire que ça fait partie de... Dès le début, il a choisi des apôtres, il en a choisi 12. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que, et ce que dit le Concile, c'est que le Jésus, c'est lui le pasteur de l'Église. C'est lui qui conduit l'Église. C'est Jésus qui conduit à travers le Saint-Esprit, et il le conduit vers le Père. Bon. Mais, quand Jésus a créé cette Église, donc il a choisi les 12 apôtres. Hein, donc ça, c'est l'introduction et l'institution des 12, hein, sur vos feuilles. Il a choisi 12 apôtres, et à ces 12 apôtres, il leur a donné les mêmes pouvoirs que lui-même avait. Donc il a donné de faire ce que lui faisait. Donc on en a de multiples exemples dans les évangiles. Et puis parmi ces 12, eh bien, il y en a certains qui ont une place particulière. Parmi les 12 apôtres, eh bien, il y en a certains qui ont une place particulière, et en particulier donc Pierre. Pierre qui est à la tête de l'ensemble des 12. Et ces 12 apôtres forment, ce que dit le Concile, c'est qu'ils forment un collège. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à vivre en communion les uns avec les autres, à travailler ensemble avec, à leur tête, Saint-Pierre. Mais comme la vie de l'Église ne devait pas se limiter à la vie des apôtres, mais continuer après même la mort des apôtres, le Christ avait prévu, enfin, les apôtres ont pris soin, avant leur mort, de choisir des personnes qui seraient leurs successeurs, hein, qui continueraient la mission même des apôtres. Et les apôtres, eux, ont reçu le don du Saint-Esprit, la Pentecôte, par la parole de Jésus, ils ont été institués comme apôtres. Et ensuite, les successeurs, ils deviendront eux-mêmes des apôtres, la suite des apôtres, mais par l'imposition des mains, et donc le don du Saint-Esprit, puisque le geste de l'imposition des mains, c'est le signe du don du Saint-Esprit. Donc, de la même manière, les apôtres vont imposer les mains à certains pour qu'ils deviennent leurs successeurs. Et ainsi, l'Église va se développer dans le monde entier, au point qu'aujourd'hui, je ne sais pas exactement, mais il y a 4000 évêques, 4000 et 4500. Alors qu'au Concile, Concile Vatican II, il y a 50 ans, il y en avait 2500. Donc on voit comment ça a grandi. Hein. Ça grandit très vite, maintenant. Voilà. Donc, il confie aux apôtres, les apôtres transmettent leur mission à des successeurs, ce qui fait que la mission des apôtres continue encore aujourd'hui dans l'Église. Hein. Les évêques, donc les successeurs des apôtres, les évêques, ont la mission même des apôtres. Et celui qui, l'évêque qui habite, qui exerce son ministère d'évêque, à la place où Saint-Pierre est mort, au lieu où Saint-Pierre est mort, c'est-à-dire à Rome, eh bien, continue à avoir la mission de successeur des apôtres, mais particulièrement la mission de Saint-Pierre. Donc, il continue la mission de Saint-Pierre encore aujourd'hui. Voilà. Donc, ensuite, dans le paragraphe 21, j'ai pris d'ailleurs dans le paragraphe 21 un article du Catéchisme de l'Église catholique parce que ça résumait bien, c'était plus simple que de citer le Concile Vatican II. Et puis j'ai fait la même chose quand je parle des prêtres et quand je parle des diacres à la fin. Donc dans le paragraphe 21, le Concile a déterminé que l'évêque, c'est pas simplement un prêtre auquel on lui a donné un pouvoir supplémentaire, afin que les hommes, un prêtre qu'on aurait mis un peu plus en avant parmi les autres prêtres, pour avoir une mission plus importante. Jusqu'à présent, jusqu'au Concile, il y avait un débat théologique, on ne savait pas bien, ce n'était pas précisé encore, de savoir qui était l'évêque. Est-ce que c'était un prêtre qui avait un honneur un peu plus important, une charge plus lourde pour gérer l'Église, ou bien est-ce que c'était carrément quelque chose, il recevait une grâce spécifique de Dieu, donc un sacrement. Eh bien, le Concile définit, alors ça fait partie des choses qui sont apportées par le Concile Vatican II de façon claire, définit que l'évêque reçoit un sacrement spécifique. C'est le sacrement de l'ordre, mais dans le sacrement de l'ordre, il y a trois degrés. Il y a le degré du diaconat, il y a le degré du sacerdoce, des prêtres, et puis le troisième degré, c'est l'évêque. Et donc l'évêque, c'est vraiment quelqu'un, c'est un prêtre qu'on a ordonné évêque. Donc, c'est pour ça que c'est intitulé le paragraphe « La sacramentalité de l'épiscopat », c'est-à-dire que l'évêque reçoit vraiment un sacrement. Et quand on devient évêque, on reçoit un sacrement. Par l'imposition des mains, donc par l'imposition des mains de ses collègues d'autres évêques. Donc, je lis ce que le Concile dit. « Le Saint-Concile enseigne que... » Donc ça veut dire que c'est important... enseigne que, par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l'ordre. C'est-à-dire que les évêques, c'est un prêtre qui a été choisi pour être évêque, et par l'ordination, il reçoit la plénitude du sacrement de l'ordre. Ça veut dire que ça place le prêtre différemment. Parce qu'avant, on pouvait dire le prêtre, bon, ben, c'est la présence de Jésus, point. Mais non, ça veut dire que le prêtre, c'est... Celui qui est vraiment successeur des apôtres et qui est vraiment présence de Jésus en premier lieu, c'est l'évêque. Et le prêtre, il est en lien avec l'évêque. Il ne peut pas être sans lui. Les évêques, quand ils exercent leur charge d'évêque, ils ne le font jamais tout seuls. C'est-à-dire ils le font comme les 12 apôtres le faisaient. C'est-à-dire les 12 apôtres, ils parlaient entre eux. Ils étaient en communion les uns avec les autres et avec Pierre. Et de la même manière, les évêques aujourd'hui, même s'ils sont très nombreux, ils agissent en collège. En collège, c'est un mot précis pour dire qu'ils agissent ensemble. Ils interviennent ensemble. Ils agissent ensemble et en communion avec le successeur de Pierre, le pape. Donc, mais c'est comme ça qu'ils sont invités à agir. Ils sont jamais, un évêque ne doit jamais agir tout seul. Tout le drame de Mgr Lefebvre, ça a été ça. Puis aussi le drame... d'une certaine manière, avec moins de gravité, mais quand même, le drame de Mgr Gaillot aussi, qui était un petit peu, qui faisait un peu ses affaires tout seul, sans s'occuper de ses frères évêques. Donc, ils forment un collège, ils agissent en collège, avec autour du pape. Alors, le paragraphe 22, le collège épiscopal est son chef. Donc, c'est ça, c'est ce que je viens déjà de dire, les évêques n'agissent jamais seuls. Ils n'agissent jamais seuls, et Donc il n'agit jamais seul, ils agissent ensemble et toujours en communion avec le successeur de Pierre. Sinon, leur action, s'il y a un petit groupe d'évêques qui se sépare du pape et qui veut agir tout seul, on ne peut pas être certain que c'est dans la volonté de Dieu. Donc ils n'agissent vraiment avec une véritable autorité que quand ils agissent en communion avec l'évêque de Rome. Et ce collège, ça exprime, ça montre, quand les évêques sont en communion les uns avec les autres et avec le pape, eh bien, ça montre que l'Église est l'Église catholique, à 1 milliard, ou je ne sais plus combien de chrétiens, de catholiques, eh bien, ils sont tous unis, parce que tous les évêques sont unis entre eux et avec le pape. Donc ça, c'est très beau. Ce qui fait que vous baptisez, quand vous vous promenez d'une église à l'autre, d'un diocèse à l'autre bout du monde, vous êtes toujours chez vous. Vous êtes toujours dans l'église. Alors, ils agissent en collège et parfois, ils prononcent des décisions. Ils se réunissent, par exemple, en concile. Ils discutent, comme ça a été le cas au Concile Vatican II, ils discutent de certaines questions et ils ont une parole. Et cette parole a autorité pour nous, chrétiens, pour que nous l'écoutions, nous la mettions en pratique, parce que, comme à la suite des 12 apôtres, eh bien, ils continuent à se mettre ensemble pour être à l'écoute de Jésus-Christ et à nous accompagner et à nous conduire vers la volonté de Dieu. Dans le numéro 23, c'est la relation à l'intérieur du collège. Alors, j'ai déjà un petit peu dit, donc... Les collèges sont unis, les évêques sont unis entre eux et avec le pape. Chaque évêque, puisqu'il n'agit pas seul, chaque évêque dans son diocèse, il a aussi, en même temps, il s'occupe de son diocèse, mais en même temps, il a le souci de toute l'Église du monde entier. C'est pour ça qu'il y a des missionnaires, c'est pour ça que parfois on envoie des prêtres qu'on appelle fidei dunum, qui partent en mission, mais c'est pour ça aussi que même des laïcs peuvent être envoyés en mission à droite, à gauche, parce que les évêques ont souci les uns des autres, et c'est pour ça aussi que parfois on donne une aide financière à d'autres églises. Nous, là, pendant ce carême, on propose d'aider le père Poda au Burkina Faso, bon, mais c'est cette idée-là qui est derrière aussi. Voilà. Et donc, cet ensemble, il forme une communion, mais après, l'Église est aussi organisée en différents groupes, qui sont les patriarches, dans les églises patriarcales, bon, ça c'est plus en Orient, avec un évêque plus important, qui a un rôle plus important de communion, et avec d'autres évêques, mais surtout, chez nous, par exemple, c'est des conférences épiscopales. On en parle souvent, la conférence épiscopale française, c'est donc les évêques de France qui se mettent ensemble pour discuter de certaines questions et pour donner, pour inviter les fidèles à telle ou telle démarche. Par exemple, ici, pour les élections présidentielles, ils ont donné quelques conseils de réflexion pour les chrétiens. Voilà. Ensuite, le numéro 24, on parle du ministère de l'évêque, ministère épiscopal. Alors, ce qui est dit, ce qui est très important, c'est que parce que quelquefois, on l'a peut-être oublié, enfin, on l'a oublié dans le passé, et aujourd'hui, il faut toujours le rappeler, c'est qu'être évêque, c'est un service. C'est d'abord un serviteur. Mais c'est un serviteur qui va très loin. C'est-à-dire que c'est le serviteur qui va agir comme Jésus. Et Jésus, que se passe-t-il? C'est pour ça qu'au moment du jeudi saint, c'est très important, Jésus lave les pieds de ses disciples, et après, il meurt en croix. Et de la même manière, l'évêque, il lave les pieds, ça veut dire qu'il sert. Il nous sert tous, il est là pour nous servir et pour donner sa vie pour nous. Il donne sa vie pour nous, comme Jésus. Donc c'est une invitation qui leur est faite, mais c'est une réalité. Et puis, comme c'est un service, eh bien personne ne peut s'arroger à soi-même ce service. C'est-à-dire, on ne décide pas soi-même, moi je ne décide pas, tiens, moi je vais devenir évêque, tiens, ça serait sympa. Non. Être évêque, c'est quelque chose, c'est pas nous qui décidons, on est appelé, c'est l'Église qui appelle, selon différentes manières, mais c'est jamais soi-même qui décidons pour ça, parce que c'est un service dans le sens très fort. Ensuite, dans le paragraphe 25, il est dit que l'évêque a une fonction d'enseignement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, dans une de mes premières catéchèses, en parlant de la paroisse, j'ai parlé des trois fonctions chrétiennes et des trois fonctions d'une paroisse. C'est l'enseignement, c'est-à-dire bon, se former, écouter la parole de Dieu, mais aussi évangéliser, première chose. La deuxième chose, c'est la sanctification, c'est-à-dire faire qu'on devienne saint, et en particulier par la prière et la liturgie, et l'Eucharistie, et les sacrements. Et la troisième chose, c'est la fonction royale, c'est-à-dire le gouvernement, la conduite, conduire le peuple de Dieu. C'est Jésus le pasteur, mais après, il faut aussi qu'on soit conduit tous ensemble dans la communion vers Dieu. Donc les évêques, ils ont ces trois fonctions. Conduire, gouverner, sanctifier et prophétique, enseigner. Et la première fonction de l'évêque, c'est peut-être le concile, c'est ce qu'il dit, la première fonction, c'est l'enseignement. L'évêque est d'abord là pour enseigner. C'est pour ça qu'un évêque, ça parle beaucoup, ça écrit beaucoup, on l'entend régulièrement, et c'est important de les écouter, et c'est pour ça que le pape fait aussi ça. C'est la première fonction. Il agit, quand il parle avec l'autorité de Jésus, du Christ. C'est ce que dit le concile. Et donc, nous, les fidèles, nous sommes invités à avoir l'attitude même des disciples et qui sont à l'écoute de Jésus, et donc de donner à notre évêque une écoute bienveillante et un désir de faire ce qu'il nous invite à faire. Et ce qu'on dit de l'évêque, on peut le dire tout autant du pape, hein, qui a un rôle très particulier dans l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je ne vais pas parler de l'infaillibilité, parce que le Concile parle aussi de l'infaillibilité, rappelle l'infaillibilité, dans quelles conditions, mais je veux simplement rappeler que parfois les évêques se prononcent avec infaillibilité quand ils sont en communion avec le pape, par exemple dans un concile, par exemple dans d'autres choses où le pape se renseigne, puis après c'est le pape qui dit infaillible, mais c'est très rare, hein, l'infaillibilité c'est très rare. Cependant, nous sommes invités toujours à écouter notre évêque et à écouter le Saint-Père avec bienveillance, parce que quand il nous dit quelque chose, il ne le dit pas parce que c'est son goût, il a envie de dire ça. Il le dit vraiment dans un souci, c'est ce que dit le Concile, d'être fidèle à Jésus et à la révélation. Il faut faire confiance en ça. Faire confiance que eux, c'est leur souci. Ils ont donné leur vie pour ça. Et c'est pas, pour eux, ce n'est pas simplement une idée en l'air. On n'est pas dans un parti politique où il y a des idées comme ça. Non, ils ont vraiment ce désir de toujours dire ce que Jésus voudrait pour nous aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, les évêques sont aussi une fonction de sanctification. Donc, c'est les sacrements, et en particulier la messe, l'Eucharistie autour de l'évêque, c'est un signe très fort de l'unité de la communion dans l'Église. Mais aussi, c'est eux qui donnent la confirmation, ça vous le savez, et c'est eux qui ordonnent les prêtres et les diacres et les évêques. Et puis enfin, ils ont une fonction de gouvernement, troisième fonction. Ils gouvernent l'Église et ils les dirigent, c'est ce que dit le Concile, les évêques dirigent l'Église comme de véritables vicaires et légats du Christ. Ça veut dire que vicaires, ils sont au service, des légats, ils sont envoyés, ils représentent Jésus parmi nous. Et c'est eux qui conduisent au nom de Jésus. Hein. Donc on doit leur faire confiance, nous sommes invités à leur faire confiance. Et on ne peut pas, j'ai précisé ça parce que je sais qu'autrefois il y avait cette idée-là, on ne peut pas les considérer comme des vicaires du pape. Ce n'est pas des vicaires du pape. Les évêques, c'est vraiment la succession des apôtres. Ils sont la suite des apôtres. Mais ils doivent être en communion avec le pape, qui est le successeur de Pierre. On est d'accord, hein, parce que s'ils ne sont pas en communion, là, il ne faut pas obéir à l'évêque, si on peut dire comme ça. C'est pour faire simple. Donc, voilà. L'évêque a souci de tous les hommes, de tous les chrétiens de son diocèse, et particulièrement, il a souci aussi de ceux qui sont éloignés de Dieu, qui ont oublié Dieu ou qui ne l'ont jamais rencontré. Il a souci de tous. Voilà. Enfin, il est question des prêtres. Les prêtres, eh bien, ils sont les collaborateurs de l'évêque. C'est-à-dire que les prêtres, ils ne sont pas leur petit chef. Et d'une certaine manière, dit le Concile, ils représentent l'évêque là où ils sont. Donc, et ils sont présence de Jésus parce qu'ils sont en commun avec l'évêque, collaborateurs de l'évêque. Mais ils sont pas, ils font pas leurs petites choses de leur côté. C'est Jésus qui conduit l'Église à travers les prêtres, mais les prêtres sont rendent présent d'une certaine façon l'évêque et sont les collaborateurs de l'évêque. Et ils rendent aussi présent l'Église universelle, les prêtres. Parce que, comme vous avez remarqué, les prêtres, vous ne les choisissez pas. Vous sont donnés. Donc ils rendent présent l'Église universelle. On ne choisit pas... Ça donne une ouverture aux communautés. Toujours, on se dit, bah oui, de fait, on a un prêtre, mais finalement, il vient d'ailleurs, il a grandi ailleurs, et il vient, il nous est donné, bon, voilà. Et ça permet d'ouvrir à la dimension de l'Église très large. Tous les prêtres sont reliés, articulés autour des évêques. Et les prêtres vivent aussi une fraternité entre eux. Les prêtres, leur fonction, c'est garder l'unité du peuple chrétien, essayer de rassembler son peuple, ce qui n'est pas toujours facile, mais ça fait partie de leur fonction, et de servir la communauté, et de diriger la communauté, de conduire la communauté, au nom de l'évêque. Et enfin, le diacre. Le diacre, lui, il a été ordonné, non pas pour être prêtre, mais pour être le signe du Christ serviteur, et il est là pour servir le peuple de Dieu de différentes manières, et en particulier par les exercices de la charité. Voilà. Et donc vous avez le résumé dans les articles du catéchisme que je ne vous ai pas lu, mais que vous pourrez lire tranquillement.